toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour Votre santé, votre avenir, présenté par Nani Totalani. La consommation des stupéfiants continue de bouleverser de nombreuses vies à travers le monde. D'après l'ONU, le taux de prévalence de la consommation rien qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale est supérieur de 10% aux moyennes mondiales, établies à 4,4%. Alors que 10% des consommateurs de drogue en Afrique sont des femmes, seulement 9% de cette population reçoit un traitement pour des troubles liés à la toxicomanie dans ce continent. Il reste aussi une zone de transit pour les stupéfiants destinés au marché européen avec des saisies de cocaïne estimées à 80 tonnes entre 2019 et 2023 seulement en Afrique de l'Ouest. Quelles sont les principales motivations qui poussent les individus, notamment les jeunes, à expérimenter et à continuer la consommation de stupéfiants malgré les risques connus pour la santé et le bien-être? Comment ces stupéfiants impactent-ils négativement la vie des consommateurs? Quelle aide et quels traitements sont disponibles pour les personnes dépendantes aux stupéfiants? Et surtout, que faire pour prévenir la consommation de ces stupéfiants?
Ils prennent un certain goût à ce médicament et le but de ce médicament, c'est tout simplement d'avoir un bien-être, d'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones, c'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang. Et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée.
Quelles sont les questions dont nous discuterons avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste des addictions?
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
L'interview que nous a accordé le psychologue Siméon Nomo, spécialiste des addictions. Cette discussion nous aidera à explorer les mécanismes qui poussent les individus vers la consommation des drogues, les effets dévastateurs de la dépendance et les voies possibles vers la guérison, tout en abordant les stratégies de prévention et de traitement. Merci beaucoup, docteur, d'être notre invité pour cette émission. Nous parlons du danger des stupéfiants et comment les gens qui sont sous influence de ces stupéfiants peuvent s'en sortir. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant, docteur?
Merci de m'avoir dans cette émission. Je suis psychologue clinicien et je suis spécialiste des addictions. Répondre à cette question nécessite assez de temps. Je vais être tout simplement bref, donner les points essentiels. Un stupéfiant, c'est un médicament non légal. C'est une drogue. Lorsque vous la prenez en dose mineure, en dose simplifiée, elle vous excite, soit peut-être à lire beaucoup, elle vous excite, soit à vous relaxer beaucoup ou suffisamment. Elle vous procure une joie intense. Mais maintenant, le même stupéfiant, la même drogue prise de manière exagérée va développer en vous l'habituation, ce qu'on appelle l'addiction. Et dès que vous vous habituez à ce stupéfiant, votre comportement, qui était celui de la relaxation, qui était celui de la gaieté ou de l'éveil moral, l'éveil du cerveau à pouvoir travailler, passe à une autre vitesse, d'où l'addiction.
Ok, docteur, qu'est-ce qui pousse les gens à consommer ces drogues de cette façon assez désordonnée, de façon qui n'est pas médicalement admise?
Je l'ai dit tantôt, un stupéfiant, c'est un médicament qui est illégal, que certaines personnes prennent pour satisfaire un besoin. C'est-à-dire que pour avoir un effet peut-être agréable, un effet de bonne humeur. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à le prendre de façon
non autorisée?
En fait, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Le fait qu'ils ont senti l'effet de ce médicament dans leur corps, ils ont la tendance à le reprendre à nouveau. ils prennent un certain goût à ce médicament. Et le but de ce médicament, comme je l'ai dit au départ, c'est tout simplement d'avoir un bien-être, d'avoir un bien-être, de se sentir bien, de se reposer et tout. Mais le fait qu'ils le prennent de manière illégale et de manière répétitive, c'est parce que ce médicament a transcendé les hormones. C'est-à-dire qu'il est entré dans leur cerveau, dans leur sang, et a développé un goût. Et puis, ils se mettent à le prendre de façon non contrôlée. Et ils ne comprennent plus les effets de ce stupéfiant dans leur corps, dans leur organisme.
Alors, docteur, y a-t-il des signes de la dépendance à la drogue qui peuvent alerter?
Oui, on peut ne pas détecter des signes, c'est-à-dire des signes visibles. Mais nous savons que, par exemple, la jeunesse aujourd'hui a développé un certain nombre de plaisirs exogènes, c'est-à-dire que des plaisirs venant de l'extérieur qui les poussent à vouloir démontrer qu'ils sont efficaces. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeune veut démontrer qu'il est plus compétitif que l'autre, il est plus efficace que l'autre, et qu'il peut faire telle ou telle chose plus que l'autre. Voilà des signes. Je prends un exemple, les femmes. Ce sont des facteurs qui poussent les jeunes à vouloir prendre des drogues. Ils se disent, il faut que j'aille démontre à ma copine que je suis efficace, que je suis bien. Autrement dit, elle va me quitter. Ça, c'est d'un. De deux, l'attirance du matériel. C'est-à-dire que je dois montrer à ma copine que j'ai de l'argent. Et pour que j'ai de l'argent, il faut que je me dope, pour que je sois plus courageux, que je développe un courage au-delà de ce qui est normal, pour pouvoir soit casser une maison, pour pouvoir peut-être agresser casser une banque, casser, je sais pas moi, détourner, voler, afin de satisfaire ma copine. Vraiment, je prends une image comme celle-là pour rester dans ce cadre, afin qu'on comprenne qu'est-ce qui peut pousser le jeune à vouloir prendre du stupéfiant. Donc, je dois satisfaire ma copine, je dois satisfaire ma petite amie, ou alors vice-versa. La petite amie veut satisfaire son garçon, son petit gars, et il ou elle se jette pieds et poings liés dans la prise de stupéfiants. Et ils savent très bien que c'est illégal, mais parce qu'ils ont pris goût au départ, c'était simplement une expérience qu'ils voulaient expérimenter, une expérience qu'ils devaient avoir, basée peut-être sur un conseil d'un ami qui leur a dit, voilà, essayons par exemple ci ou ça. Et donc, après ça, ils tombent dans ce qu'on appelle l'addiction, c'est-à-dire le goût de la prise de ce stupéfiant.
Ok, mais ce goût s'accompagne certainement des risques. Est-ce qu'il y a des risques physiques et psychologiques liés à la consommation de la drogue?
Bien sûr, il y a beaucoup de risques, madame, je vous assure. D'abord, si je prends l'exemple des opioïdes. Les opioïdes sont des drogues prescrites médicalement. Et le médecin va vous dire que c'est contre les douleurs fortes, les douleurs sévères. Mais illégalement, des individus se lancent dans les opioïdes parce que voilà, le mal de tête ne cesse. Et puis ils s'y lancent. Et puis ils commencent à les prendre. Les opioïdes, par exemple, Sébastan, méthamphénopine. Ces opioïdes, ces médicaments sont très dangereux et ça a des effets néfastes dans l'organisme. Je vais prendre deux dimensions parce que quand nous faisons les évaluations psychologiques de ces personnes déjà addictives des opioïdes ou bien des stupéfiants, nous partons sur la base de 6 étapes, c'est-à-dire que 6 modèles ou 6 sessions. Nous commençons généralement par évaluer la dimension biologique. La dimension biologique qui est celle de l'intoxication que le stupéfiant va avoir dans le corps du sujet. Donc les intoxications, quels sont les risques qui sont associés, n'est-ce pas, à cette prise de stupéfiant par ce garçon. Et dans cette dimension biologique, lorsque nous l'avons évalué, s'il n'y a pas d'intoxication grave, ok, on va tout simplement procéder à ce que nous appelons la thérapie. Mais s'il y a des conséquences graves, des risques graves qui peuvent dégénérer sur le plan biomédical, c'est-à-dire que la condition médicale de celui-ci a été entamée, il y a par exemple une maladie chronique qui s'est assise et tout ça, alors nous faisons de la référence, nous le référons. Bon, maintenant, il y a une autre dimension que nous appelons la dimension psychologique, c'est-à-dire que la dimension psychologique, c'est-à-dire cognitive ou bien comportementale ou bien même émotionnelle. Vous voyez, quand quelqu'un a fini de prendre la drogue, sur le plan émotionnel, son sourire n'est plus un sourire net. Voyez-vous, il n'a plus un sourire adéquat, un sourire net, comme je dis. Il, de façon exagérée, va montrer ses dents, ses yeux commencent à être larmoyants. Le comportement psychomoteur est lent, c'est-à-dire l'action de son corps, ses mains, sa démarche, il titube, ainsi de suite. Et ça, l'évaluation peut nous pousser à consulter un psychiatre pour une prise en charge psychiatrique, une prise en charge médicamenteuse. Et comme je dis, c'est un niveau de fonctionnement assez grave.
Est-ce qu'il y a des options de traitement pour venir en aide à ceux qui sont dépendants de la drogue? On précise bien la drogue qu'on prend de façon illégale et anarchique.
Bien sûr, c'est ce que je disais. La drogue illégale, la drogue anarchique, c'est ce qu'on appelle la dépendance de la drogue des stupéfiants. Je disais que la dimension biologique, elle est là. Nous l'attaquons, c'est-à-dire que lorsque nous avons évalué le degré d'acuité intoxicationnelle, il y a une intoxication potentielle, on va travailler dessus, on va voir quels sont les risques que le client, le sujet ouvre, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Bon, maintenant, il y a également dans cette même dimension, il y a la partie B qu'on appelle la dimension médicale. Quels sont les médicaments que le sujet doit prendre au cas où il y a une chronicité, c'est-à-dire que cette stupéfiant ont développé dans son corps, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, il y a ce qu'on appelait la dimension psychologique, qui est également celle de l'évaluation cognitive, comportementale et voire même émotionnelle. Parce que la condition du sujet addict à la drogue illégale est une condition psychologiquement entamée. Et nous nous rassurons que s'il a été entamé psychologiquement, ça veut dire que son comportement a évolué vers l'extrême, vers le négatif, vers la sévérité. Et cette sévérité-là nécessite, n'est-ce pas, la consultation d'un psychiatre.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors, docteur, quelle est la couche de la population la plus exposée à la prise illégale des stupéfiants?
La réponse à cette question est vraiment... C'est une très bonne question. Hein. Nous dirons que... généralement, ce sont les hommes qui sont la couche la plus atteinte. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit aussi les femmes, hein, les femmes qui sont clairement engagées. Je vais vous dire ce que beaucoup de gens ne savent pas. L'alcool est la première drogue qui détruit l'humain. Tout à l'heure, vous parliez de drogue illégale. Nous savons que l'alcool est même illégal. Elle est même proscrite dans certains pays. Malheureusement, nous savons que dans certains pays où même l'alcool est proscrit, c'est dans ce pays qu'on trouve une vaste majorité de consommateurs de l'alcool ou des drogues stupéfiantes. Et comme je disais, l'alcool détruit le cerveau. À l'instant où vous commencez à prendre l'alcool de façon exagérée, je vous ai dit au départ en définition que les stupéfiants ou ces drogues-là, l'individu, au départ, ne va pas les prendre, ne les prend pas, n'a pas l'envie de les prendre tout simplement parce que il veut se détruire. Voyez-vous, c'est d'abord parce que il veut chasser un stress, il veut traiter son mental, c'est-à-dire qu'il veut se réjouir, il cherche une bonne humeur, il cherche une relaxation, il cherche à être content. Mais c'est la reprise, c'est l'exagération, l'extravagance de la prise de ces médicaments qui développe donc maintenant un comportement psychologique inadéquat et d'où les différentes dimensions du traitement dont je vous ai parlé plus haut.
Alors, docteur, comment prévenir la consommation illégale des stupéfiants de façon générale dans la société, mais surtout auprès des jeunes?
La prévention passe par la responsabilité de l'État à réduire la vente ou alors réduire l'accès de ces stupéfiants aux jeunes. Je sais, ce que je viens de dire là, c'est presque une utopie, mais c'est une responsabilité néanmoins. Si les États dans le monde entier pouvaient contrôler de façon sérieuse à réduire ces stupéfiants, je crois que la jeunesse n'aurait pas moyen d'y arriver. Et il est vrai que certains États ont mis sur pied des stratégies pour contrer cela. Par exemple, la police qui veille à ce que dès qu'on vous a trouvé avec un stupéfiant, on vous arrête, ainsi de suite. La répression va intervenir. Mais je disais, l'État va devoir faire ça. Maintenant, l'État a aussi d'autres moyens, et ça c'est un moyen aussi important. Quiconque a senti que son stupéfiant qu'il a commencé à prendre dans sa vie ont développé des inaptitudes en lui, cette personne peut se rendre dans un milieu de soins. Et il en existe cinq. Niveaux de soins à ce moment-là. Si vous êtes prêt à vous y engager, ce n'est pas forcément, comme je parle de la dimension biomédicale, ce n'est pas forcément l'hôpital que vous devez vous limiter. Vous devez également essayer de vous lancer à ce que nous appelons le niveau des soins intensifs. Maintenant, l'autre point de salut, ma foi, c'est vraiment la prière. Vous savez, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et si vous, un temps soit peu, après vos sessions de thérapie avec votre clinicien, vous pouvez vous remettre entre les mains du Seigneur et il va vous guérir parce que Dieu guérit, je crois que Dieu guérit aussi les individus qui souffrent des maladies liées aux stupéfiants.
Je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de notre entretien avec le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de santé avec Linor Moudou. Cette semaine, dans Carnet de santé, nous examinons l'impact de la qualité de l'air sur notre santé. Des écoliers au Kenya prennent des mesures pour améliorer la qualité de l'air dans leur quartier et se protéger de la pollution. Le docteur Lisa Frost-Ramsey, spécialiste en qualité de l'air, discute des impacts de la pollution sur la santé et partage quelques solutions. De plus, une technique innovante de transplantation marque une avancée significative dans le domaine des greffes d'organes. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'air que nous respirons chaque jour affecte notre santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone sont certains polluants qui compromettent la qualité de l'air que nous respirons et peuvent causer des maladies telles que le cancer, des troubles neurologiques et des maladies cardiovasculaires. Selon le rapport annuel sur la qualité de l'air dans le monde 2023, seuls 7 pays sur 134 respectent les normes de qualité de l'air, y compris l'Islande, l'île Maurice et la Nouvelle-Zélande. Partons au Kenya, où des élèves d'une école située juste à côté de la plus grande décharge du pays ont commencé à planter du bambou pour améliorer la qualité de l'air. Les fumées nauséabondes des déchets affectent la santé des élèves et l'école prend des mesures pour y remédier. Davantage avec Blanche Sanou.
Une école située juste à côté de la plus grande décharge du Kenya a commencé à planter du bambou pour améliorer la qualité de l'air. Chaque matin, une fumée âcre s'échappe de l'incinération des déchets et se dirige vers l'école voisine.
La décharge produit du gaz le matin et aussi l'après-midi et cela devient un problème. Elle produit de la brume et du brouillard qui polluent vraiment l'environnement avec de mauvaises odeurs. C'est comme si quelqu'un vivait dans des toilettes alors que nous sommes dans une salle de classe.
Plus de 100 bambous parsèment la mini-forêt créée autour de l'école secondaire d'Andorra située à l'est de Nairobi. La décharge a été déclarée pleine il y a 23 ans, mais des centaines de camions y déversent encore quotidiennement des déchets. Ce projet sur le bambou est donc la façon pour les élèves de riposter. Le directeur de l'école, Etichus Meina, en est l'initiateur.
My motivation of initiating bamboo Ma motivation pour lancer le projet de la muraille de bambou pour l'école était d'atténuer les effets de la décharge. Elle pollue vraiment l'air que nous respirons et je sais que le projet va réduire les cas d'infections respiratoires parmi les habitants de la communauté de Dandora.
La décharge du Dandora occupe environ 50 hectares et reçoit quotidiennement plus de 2000 tonnes de déchets en provenance des environs de Nairobi où vivent 4 millions de personnes. Adériana Mbandi, experte régionale de la qualité de l'air, affirme que la pollution de l'air présente un risque sérieux pour la santé.
La pollution de l'air a un impact sur toutes les parties de notre corps, y compris notre cerveau, nos organes, nos poumons. Cela affecte les jeunes enfants avant même leur naissance. Le seul moyen de garantir que vous ne respirez pas l'air pollué est de minimiser votre exposition. Désormais, la plantation de bambou garantit qu'il existe une barrière contre l'air pollué qui circule. La plante garantit la photosynthèse et elle produit de l'oxygène tout en ingérant du dioxyde de carbone.
Les bambous sont considérés comme l'un des meilleurs purificateurs d'air naturel selon l'UNESCO. La direction de l'école est déterminée à continuer jusqu'à ce que tout le mur de 900 mètres qui la sépare de la décharge soit recouvert de bambous.
La pollution tue environ 7 millions de personnes dans le monde chaque année selon l'OMS. Le docteur Lisa Frost Ramsey est spécialiste de la qualité de l'air chez SLR Consulting et professeure associée à l'Université du KwaZulu-Natal. Elle explique l'impact de la pollution de l'air sur notre santé et suggère des mesures à prendre pour améliorer la qualité de l'air en Afrique.
La meilleure manière de définir la mauvaise qualité de l'air est probablement d'examiner la concentration de polluants toxiques qu'il contient. Il peut s'agir de particules solides et de composés gazeux. Il existe plusieurs directives en matière de santé qui sont pertinentes. Si la concentration dans l'air dépasse ces directives, cela peut avoir un impact sur la santé. Sur le continent africain, la qualité de l'air à l'intérieur des habitations constitue un problème majeur. Un grand nombre de ménages cuisinent à l'intérieur ou utilisent des poêles à paraffine qui émettent une grande quantité de polluants. Les maisons sont souvent mal construites. Les gens dorment également à proximité des sources de pollution et sont exposés pendant la nuit pendant qu'ils dorment, par exemple. En fait, les taux de mortalité les plus élevés sont liés à la pollution de l'air, au VIH et au paludisme combiné, ce qui est tout à fait impressionnant. Il s'agit d'une question environnementale essentielle à laquelle on ne pense pas toujours, mais il est vraiment très très important de le résoudre si nous voulons lutter contre la mortalité sur le continent africain. Les populations les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées. Les enfants sont très sensibles et nous avons une population jeune très élevée. Les jeunes sont donc également touchés et cela vaut pour le continent africain. Parmi les options clés, on peut citer l'élaboration d'une loi sur le contrôle de la qualité de l'air qui est tout à fait nécessaire. Dans certains pays, nous avons des lois, mais elles sont très mal appliquées. Nous devons déterminer le niveau de pollution auquel les gens sont exposés. Il faut donc mettre en place des réseaux de surveillance. Ces merveilleuses technologies issues de l'Inde, par exemple, qui sont des capteurs peu coûteux que l'on peut installer, qui permettent de mesurer la pollution de l'air et de savoir à quoi les gens sont exposés. On ne peut pas s'attaquer à un problème si on ne le comprend pas. Tout d'abord, nous avons parfois la chance de voir cette pollution de l'air. Par exemple, dans le cas de la fumée et des sources très poussiéreuses, comme dans les zones minières, on peut voir la brume ou la poussière dans la zone et savoir que l'on est exposé. Mais certains des polluants les plus toxiques sont invisibles et pour beaucoup d'entre eux, inodores. Il est également difficile de dire que si vous éternuez beaucoup, c'est à cause de la pollution de l'air, car il peut aussi s'agir d'une allergie. Ainsi, lorsque nous essayons d'établir un lien entre la pollution atmosphérique et l'impact sur la santé, nous ne nous contentons pas d'examiner les symptômes tels que les éternuements, les toux, les nausées ou les maux de tête. Nous établissons un lien avec l'exposition qui est une mesure de la pollution de l'air.
Comment les habitants de Kinshasa en RDC perçoivent-ils la qualité de l'air dans leur communauté et quels changements souhaiteraient-ils voir pour l'améliorer? Découvrez leur réaction.
Question de l'air. Actuellement, l'air est pollué et on trouve qu'il y a, différents aspects qui entrent en jeu. Actuellement, et ce que nous vivons à Uvira, c'est toujours les aspects que l'homme a pu influencer. Par exemple, vous trouverez qu'il y a abattage d'arbres, Nous sommes en train d'assister actuellement à cette catastrophe naturelle.
Beaucoup de choses restent à désirer sur la qualité de l'air que nous respirons dans notre communauté ici à Uvira.
Comment ?
Nous pouvons le constater parce que nous n'avons pas de poubelles à Uvira. Et les gens jettent des immondices, des déchets partout, dans des caniveaux, sous le pont, vous trouverez même dans les avenues. Les gens jettent à ciel ouvert les déchets.
Il y a des inondations et ces inondations affectent même des maisons. Il y a destruction des toilettes et cette destruction des toilettes affecte la vie. Même ce que nous respirons est affecté.
Et à Uvira, il y a une partie de la population qui utilise aussi le bois des chauffes pour cuire la nourriture et que vous trouverez avec ces fumées-là. Ces fumées aussi contribuent à la pollution de l'air. C'est pourquoi je vais le confirmer que l'air à Uvira reste à désirer.
Je pense, à mon avis, que les autorités locales ou gouvernementales devraient prendre des mesures qui favorisent l'amélioration de l'environnement, l'amélioration de la qualité de l'air.
L'île de Mayotte lutte contre une épidémie de choléra qui met son système de santé à rude épreuve. Parlons-en avec Jenny Niwa.
85 cas de choléra ont été signalés à Mayotte depuis le premier cas le 18 mars, indique l'agence sanitaire publique. La grande majorité des cas ont été détectés dans la commune de Kongou, dans un quartier précaire avec des difficultés d'accès à l'eau potable et des défauts d'assainissement, indique Santé publique France.
Aujourd'hui, l'état de la situation, c'est quelques cas sur Msangamouji. La seule chose qu'on peut dire, c'est jusqu'à présent, c'est qu'il y a un lien fort avec la rivière où les gens lavent le linge. On attend clairement les conclusions de Santé publique France qui sont en train de mener les investigations et qui vont nous confirmer dans les jours à venir le nombre de cas stabilisés pour la commune de Msangamouji.
La mairie de Kongou a pris un arrêté mercredi afin de fermer temporairement tous les établissements scolaires de deux villages jusqu'au 18 mai. Un protocole sanitaire prévoit la désinfection du foyer des malades, l'identification et le traitement des cas contacts et une vaccination en anneaux élargie progressivement.
Grâce à eux, je connais maintenant ce qu'il faut faire pour ne pas attraper la maladie. En rentrant à la maison, il faut se laver les mains avec du savon et utiliser le gel hydroalcoolique avant de manger.
Selon Santé publique France, au 13 mai, 4456 cas contacts avaient été vaccinés sur l'île. Une nouvelle campagne de recrutement est en cours afin de remplacer le personnel volontaire géré par SPF en fin de mission.
Tous les jours, en fait, on nous envoie des messages ou même quand on n'a pas des messages venant de l'ARS, nous, on intervient quand même dans la zone pour voir comment les habitants y vont par rapport aux cas aussi qu'on a pu rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas qui ont été des malades où nous, on est parti intervenir pour faire de la vaccination au sein des foyers. Une fois la vaccination faite au sein des foyers, on revient deux jours après pour pouvoir revoir les familles, en fait, comment ils vont.
Les premiers cas de choléra à Mayotte ont été recensés mi-mars chez des personnes de retour des Comores voisines où l'épidémie culmine.
Voilà la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Notre invité, le docteur Siméon Nomo, psychologue clinicien et spécialiste en addiction, a expliqué la nature des stupéfiants, les motivations qui poussent les individus à les consommer de manière illégale, ainsi que les impacts physiques et psychologiques associés à leur usage. Il a souligné l'urgence de traiter le problème de la consommation illégale de stupéfiants, en particulier parmi les jeunes, tout en offrant des perspectives encourageantes sur les options de traitement disponibles et le rôle crucial de l'État dans la mise en place de politiques de prévention, de sensibilisation, ainsi que l'importance de l'accompagnement médical et psychologique pour ceux qui cherchent à se libérer de l'emprise des drogues. Le docteur Siméon Nomo a par ailleurs évoqué la dimension spirituelle dans le processus de guérison et aussi la collaboration entre les institutions, la communauté médicale et la société dans son ensemble est essentielle pour forger un avenir où la dépendance aux drogues illégales est non seulement mieux comprise, mais aussi plus efficacement contrée. En plus, nous vous avions proposé Carnet de santé avec Linor Moudou. Ce magazine santé a été présenté par Nanit Talani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre